RFI m'attend dans une minute, notre grand invité Afrique et la revue de presse africaine.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et à la une, d'abord cette toute première interview donnée par Donald Trump depuis son investiture lundi en tant que 47e président des États-Unis. Il a répondu pendant 20 minutes aux questions de Fox News et il a notamment justifié l'une de ses premières décisions, la grâce accordée aux inculpés de l'assaut du Capitole. C'était le 6 janvier 2021. Autre de ses priorités, la lutte contre l'immigration. Hier, une toute première loi a été votée sous sa mandature. Elle prévoit la détention automatique par les forces de l'ordre fédéral de migrants en situation irrégulière qui ont été condamnés ou inculpés pour certains délits. Par ailleurs, on l'a appris hier, 1500 militaires supplémentaires ont été déployés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, toujours dans cette perspective de lutte contre l'immigration. Donald Trump attendu en Californie en fin de semaine, alors qu'on apprend qu'un nouvel incendie s'est déclenché ce mercredi au nord de Los Angeles, quelques heures après s'être déclaré. Les flammes, attisées par des vents chauds, ont déjà ravagé plus de 3800 hectares. Israël a poursuivi hier son opération menée en Cisjordanie occupée, alors que la trêve dans la bande de Gaza est, elle, toujours en vigueur. On l'a appris quand même hier, l'armée de l'État hébreu a annoncé avoir tué un membre du djihad islamique dans le sud de l'enclave palestinienne. Et puis un mot de la Thaïlande avec cette nouveauté historique aujourd'hui, l'entrée en vigueur d'une loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe. Le drapeau arc-en-ciel flotte fièrement en Thaïlande, a déclaré la première ministre du pays ce jeudi sur X. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine, à quand le retour à l'ordre constitutionnel au Mali ?
Oui, question posée par les partis signataires qui regroupent partis politiques et organisations de la société civile. Dans un communiqué publié notamment par le journal en ligne Malikilé, ces partis signataires s'inquiètent. Suite au discours à la nation du chef de l'État le 31 décembre dernier, nous exprimons notre surprise quant à l'absence de mention des élections, notamment celle devant mettre fin à la période transitoire de 5 ans que traverse le pays et qui équivalent à un mandat électoral. Nous rappelons que la date de retour à l'ordre constitutionnel, fixée unilatéralement par les autorités après plusieurs reports, reste floue pour le peuple malien. Malgré l'inscription au budget de l'État des ressources pour des élections cette année, nous restons préoccupés par l'incertitude régnante. Nous regrettons les réformes engagées de manière unilatérale, sans concertation ni chronogramme clair. Bref, pour les partis signataires, les militaires au pouvoir à Bamako outrepassent leurs droits, décident de tout et surtout ont bien l'intention de rester au pouvoir.
Opinion radicalement différente pour Le Pouce, dont les éditoriaux sont publiés sur le site Maliweb.
Oui, Le Pouce qui estime à contrario que les militaires maliens ne vont pas assez loin. Existe-t-il ou non une autorité de l'État au Mali, s'interroge le journal. Si des individus peuvent se permettre encore de défier les autorités de la nation sur n'importe quel sujet d'intérêt national, c'est que l'autorité de l'État est encore loin d'être assumée et c'est un peu inquiétant à ce stade de la transition que de savoir qu'Assimi et ses hommes ne font plus peur, car pour redresser un peuple, l'éduquer aux valeurs, il faut une certaine rigueur et cette rigueur, bon nombre de Maliens pensaient l'apercevoir à travers ce pouvoir de transition. Le danger en effet, c'est lorsqu'un pouvoir ne fait plus peur, insiste Le Pouce, et que le laisser-aller s'installe petit à petit, annonçant un retour aux anciennes mauvaises habitudes.
Autre son de cloche avec ce récent coup de gueule de l'écrivain guinéen Thierno Monet Nembo dans Le Point Afrique.
Thierno Monet Nembo qui met dans le même sac le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger et qui dénonce le cirque ambulant de la transition. Il vaudrait peut-être mieux supprimer ce mot transition du vocabulaire africain, s'exclame-t-il. C'est un mot indécent que d'ailleurs plus personne n'ose prononcer. Un canular, un spectacle de mauvais goût qui entraîne le cauchemar partout où il se produit. À Bamako, Conakry, Ouagadougou, comme à Niamey, on ne veut plus entendre parler de droits de l'homme, de démocratie ou de calendrier électoral. C'est la normalisation, le retour en fanfare du pouvoir kaki comme aux belles heures de Mobutu et de Bokassa.
En tout cas, pour en revenir au Mali, la situation politique est d'autant plus compliquée que les finances du pays sont dans le rouge.
Oui, c'est du moins ce qu'affirme Jeune Afrique au détour d'un article sur les forces russes présentes dans le pays. Les caisses au Mali sont vides, l'achat de matériel militaire, le recrutement de soldats ont épuisé les finances publiques, le retrait des partenaires internationaux a creusé la dette, la crise est multiple, les investissements sont en berne, le secteur de la santé s'essouffle, les délestages sont incessants, la junte doit trouver de l'argent et vite.
Enfin, à lire, ou plutôt à voir, sur le site du Monde Afrique, le premier épisode d'une mini-série vidéo sur quatre femmes noires oubliées qui ont marqué l'histoire de France.
Avec comme narratrice l'actrice Aïssa Maïga, le premier épisode est consacré à Louis Louise-Marie-Thérèse, née à Versailles vers 1675. Pendant des siècles, la légende voulait qu'elle soit la fille illégitime de Marie-Thérèse d'Autriche, la reine de France, née d'une liaison secrète avec un âme en noir, relate Le Monde Afrique, mais une récente exploration des archives historiques propose une autre hypothèse. Le dépouillement de documents en effet en France, en Autriche, en Espagne et au Vatican, ainsi qu'aux archives départementales de Seine-et-Marne, suggère qu'il s'agirait plutôt de la fille du roi Louis XIV. Sa mère pourrait être une comédienne noire, vendue, jeune enfant, au premier comédien du roi pour jouer les rôles de sauvagesse. Enfant métisse, donc, enfant illégitime, enfant caché, enfant oublié, Louise-Marie-Thérèse passera toute son existence dans un couvent, avant, 350 ans plus tard, donc, de renaître dans cette série du Monde Afrique sur les femmes noires qui ont marqué l'histoire de France.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. 178 000 personnes obligées de fuir en quelques jours dans l'est de la RDC, chiffre donné par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, alors que les combats se sont intensifiés dans la zone entre l'armée congolaise et ses alliés et le M23 soutenu par le Rwanda. Que fait la communauté internationale? C'est l'interrogation de plus en plus pressante du gouvernement congolais. Patrick Muyaya est le ministre congolais de la communication et des médias. Il est aussi notre invité ce matin au micro de Christophe Boisbouvier.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
L'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et sur Minova au sud Kivu, a annoncé l'armée congolaise ce mardi par communiqué. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, je confirme. L'armée a évidemment communiqué parce que c'est la dynamique de la guerre. Parfois, vous perdez de bataille, parfois vous gagnez. Mais il y a une détermination claire que nos forces armées vont s'assurer d'assurer la défense de l'intégrité territoriale et la protection de nos populations et que c'est une guerre que nous allons gagner. L'ennemi dont l'armée parle, aujourd'hui, c'est un ennemi qui est connu. C'est l'armée rwandaise. Ça vaut même plus la peine de parler du groupe terroriste M23 qui n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Référez-vous au dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui parle à la fois des équipements utilisés, mais aussi du nombre de militaires envoyés sur les terrains. C'est illustratif justement de la volonté criminelle du président rwandais et cela doit cesser absolument.
Donc depuis ce mardi matin, la ville de Minova est occupée par votre ennemi.
Mais oui. Évidemment. Et c'est que le « ne vous dit pas », c'est qu'il y a des massacres qui se font en même temps. Parce que à chaque fois qu'il y a une avancée des terroristes, le premier objectif, c'est de mettre la main sur les jeunes et de les mettre hors de portée de nuire. Vous savez que nous avons une dynamique de jeunes qu'on appelle les Wazalendo, qui contribuent à la défense de la patrie. Et chaque fois que l'ennemi arrive, il s'assure que tous les jeunes identifiés aveuglément puissent être mis hors de portée. Ça veut dire qu'il y a des assassinats, des massacres. Certains journalistes ont publié des images qui sont assez choquantes de la manière dont certains compatriotes ont été tués parce qu'il y a une volonté de semer la terreur. Et c'est cette situation, d'ailleurs, qui devrait, de notre point de vue, être un élément déclencheur pour obtenir de la communauté internationale de mesures plus fermes et plus fortes. Aujourd'hui, nous avons vu, évidemment, les pays occidentaux condamner le Rwanda, dénoncer le Rwanda, mais ce n'est pas suffisant en termes d'action pour nous assurer, justement, que ces aventures criminelles cessent parce qu'il y a trop de drames. Tout ceci se passe sous la barbe de la communauté internationale et c'est illustratif justement de la nécessité pour elle d'agir plus énergiquement dès lors que le processus de Luanda a été publiquement saboté par les présidents rwandais qui s'en gênent d'ailleurs, revendiquent les actes terroristes posés par les terroristes du M23 et il y a une nécessité d'avoir une action plus énergique pour prévenir un conflit plus intense dans la région.
Sur le plan politique, le processus de Luanda est au point mort depuis l'annulation de la rencontre du mois dernier entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pourquoi dites-vous que Paul Kagame a saboté le processus de
Mais parce qu'il n'est pas venu pour ne pas consacrer la mort de son fils préféré, les M23, qui est un mouvement terroriste.
Apparemment, il n'est pas venu parce qu'il voulait un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23.
Écoutez, ça, c'est les subterfuges qu'ils ont sortis la veille, justement, de la tenue du sommet. Nous, les présidents de la République l'a déjà dit hier et dit, il n'est pas question pour nous de discuter avec les M23, qui en réalité n'existent pas. Parce que l'agenda qu'ils ont, c'est l'agenda rwandais. Pourquoi on va discuter avec le Pantin alors que nous avons l'autorité morale, entre guillemets, de toutes ces actions criminelles sur la table? Et donc, c'est lui qui a choisi délibérément de saboter ces processus, de mettre le processus au point mort, s'appelle Paul Kagame, et il est urgent que la communauté internationale puisse tirer des conséquences de la manière la plus ferme pour qu'il rentre sur la table et pour que les processus puissent aboutir.
Alors, vous demandez des sanctions internationales contre le Rwanda, mais l'Union africaine, pour l'instant, refuse que les Nations Unies inscrivent un débat sur ce sujet dans son agenda 2025. Vous n'êtes pas déçu ?
Écoutez, pour tous ces pays qui estiment aujourd'hui que le Rwanda devait être épargné des sanctions, devrait juste regarder la situation humanitaire. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes femmes et hommes qui sont déplacés dans leur propre pays du fait des agissements du président rwandais. Il y a des viols, de massacres qui se perpétuent en plein jour. Ces pays-là, je ne pense pas qu'ils veulent être complices de ces dégâts. N'est pas prendre des sanctions fortes en ce moment, c'est être complice de massacres qui sont commis dans l'Est de la RDC.
Et vous pensez qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin, lui, non plus ?
Il devrait aller plus loin, justement.
C'est-à-dire ?
Plus loin, ça veut dire que la France, aujourd'hui, peut activer des sanctions plus fermes, parce qu'on connaît les rapports des Nations Unies, c'est des rapports qui sont publics, et je pense qu'il y a sûrement des experts français, la France qui, généralement, est derrière les plumes, qui prennent des résolutions au niveau du Conseil de sécurité, devrait tirer les conséquences, au regard de la situation humanitaire et du côté belliqueux prouvé par le président rwandais, et donc le président Macron est lui aussi tenu d'user de plus de fermeté vis-à-vis du Rwanda pour que la paix soit restaurée dans l'Est de la RDC.
Monsieur le ministre Patrick Muyaya, merci.
Le ministre congolais de la Communication et des Médias avec Christophe Boisbouvier. Maman, comme chaque jour, votre carte postale du Gondwana. Ce matin, vous nous dites qu'en très très démocratique république, il y a des accusations qu'il faut à tout prix éviter.
Oui, comme dit le dicton gondwanais, si t'es dans les problèmes, mon ami, c'est que tu les as bien cherchés. Bah oui, tout le monde sait que la règle numéro un de la vie au Gondwana, c'est la prudence. Si tu sais marcher sur la pointe des pieds, jamais tu ne réveilleras le chien méchant qui dort devant la porte. Après la prudence, la deuxième qualité de la vie au Gondwana, c'est la politesse. Depuis tout petit, on t'apprend à dire bonjour, merci, au revoir, on t'apprend le vouvoiement, le s'il vous plaît, on t'inculque le respect d'autrui, de tes aînés, de tes supérieurs au boulot, pour savoir naviguer en tout milieu. Et c'est ce GPS-là qui peut te sauver la mise et t'éviter les situations les plus inconfortables en très très démocratique république. En matière de manque de respect, tu peux partir de la petite impolitesse du quartier jusqu'à celle envers le policier, ton banquier ou le ministre. Si on met de côté le manque de respect envers ton papa et ta maman et le blasphème envers Dieu, la différence entre les deux étant que pour tes parents, c'est entre toi et toi-même. Si tu leur manques de respect, eux ne te diront rien. Tu es leur enfant pour la vie, mais tu passeras à la caisse de la vie tôt ou tard. Quant au blasphème envers Dieu, lui non plus ne te dira rien. Il t'attend là-haut, mais sache qu'il y a toujours un zélé ici-bas qui va acheter la bagarre de Dieu comme s'il avait une procuration signée par Dieu lui-même. Et donc, en très très démocratique république, le Kilimandjaro du manque de respect, l'Everest de l'impolitesse, c'est l'offense au chef de l'État, l'offense à président fondateur. Là, mon ami, président fondateur, comme Dieu ou tes parents, lui non plus ne te fera rien personnellement. Il est au-dessus de ses contingences bassement terrestres. Il ne va rien te dire, il ne va rien te faire. Mais tu n'es pas sorti de l'auberge, mon ami. Au contraire, tu viens d'y entrer à grande pompe. Et c'est à coup de pompe dans le derche que tu seras accueilli et traité. Offense à notre leader bien-aimé, tu es dans pain, comme on dit au Gondwana. Ta punition n'est pas prévue pour l'au-delà, Non, elle sera ici et maintenant, pas à l'au-delà, mon ami. Je te parle même pas de sergents sans fout la mort des autres ou des zélés militants du parti présidentiel qui vont te chicoter, Non, mon ami. C'est la justice qui t'enverra une lettre d'invitation parce que les juges ont prévu des fêtes d'anniversaire pour des impolis comme toi, Fêtes d'anniversaire avec cadeaux et gâteaux d'anniversaire dont tu te souviendras toute ta vie. Donc, sache qu'on ne fait pas d'offense à président fondateur, mais des hommages et des louanges. Si tu ne fais pas d'hommage, ça sera dommage pour ta face et tu payeras les dommages et intérêts à tous les Gondwanais pour la souffrance psychologique que tu leur as infligée en offensant leur leader bien-aimé, phare des phares, astre des astres, celui qui voit et entend tout plus vite et plus loin que nous tous. T'as vu, c'est comme ça qu'on parle d'un chef, Allez, à lundi.
À lundi, maman. Et merci. Restez à l'écoute d'RFI, le journal dans deux minutes.
La Foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI.
Organisé par le Centre National du Livre, les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitdelalecture.fr en partenariat avec France Média Monde. My French Film Festival, le premier festival de cinéma francophone entièrement en ligne, revient du 17 janvier au 17 février. Retrouvez le meilleur du jeune cinéma francophone à travers une sélection de 20 films sous-titrés en 8 langues, disponibles dans le monde entier et gratuits dans de nombreux pays. Rendez-vous sur myfrenchfilmfestival.com pour découvrir les films et de nombreux contenus exclusifs. My French Film Festival, du 17 janvier au 17 février, en partenariat avec France Média Monde.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI publie-t-elle les témoignages d'Africains envoyés sur le front ukrainien pour combattre du côté de la Russie ? Violation des droits humains, guerre des récits, l'histoire de ces hommes vous a beaucoup fait réagir.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval. Vendredi à 11h10 et 19h41 sur RFI.